Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonoresources.gouv.fr/collectivité.
BFM Business. Check-up santé au cœur de l'innovation santé. Fabien Guez.
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur BFM Business dans Check-up Santé. Vous le savez sûrement, le diabète, c'est quand on a trop de sucre dans le sang, sucre qui va lentement mais sûrement altérer gravement votre santé. Le diabète, c'est une pandémie mondiale qui continue de progresser. À l'occasion de la Journée mondiale du diabète, j'ai le plaisir d'accueillir le professeur Jean-Pierre Rivelin, endocrinologue et responsable du Centre universitaire du diabète et de ses complications à l'hôpital Lariboisière à Paris, et Philippe Emery, président du laboratoire Abbott. Le diabète, ça abîme aussi les yeux. Ça tombe bien car Jean-Michel Lambert, président de OIA Vision Care France, va nous présenter ces fameux verres qui freinent la progression de la myopie chez les enfants. Enfin, la célèbre expression « errare humanum est », l'erreur est humaine, prend une dimension toute particulière quand il s'agit de santé. Thierry Wildstein, le directeur médical de la MSSF, va nous dire pourquoi les professionnels de santé sont de plus en plus souvent mis en cause. Check-up santé, c'est parti. Jean-Pierre Rivelin, bonjour.
Bonjour.
Philippe Emery, bonjour.
Bonjour.
Alors Jean-Pierre Rivelin, c'est évidemment en ce moment la journée mondiale du diabète. Vous êtes endocrinologue, vous êtes professeur d'université et responsable du centre universitaire du diabète et de ses complications à Lariboisière à Paris, mon premier hôpital d'ailleurs. Quelques chiffres tout d'abord. Donc en France, combien de diabétiques en France ?
On sait qu'il y a à peu près 4 millions de diabétiques connus, mais on sait très bien que c'est un chiffre qui est supérieur parce que beaucoup de patients ont le diabète sans le savoir. Ouais. Donc en fait, ça doit largement dépasser les 4 millions.
On va en reparler tout à l'heure, et dans le monde, j'imagine que...
On est à peu près à 530 millions de personnes, ce qui correspond à 10% de la population mondiale.
D'accord. Et qui va ne faire que croître
oui,
avec
les
le
projections
temps.
Sont malheureusement très pessimistes, et c'est une maladie épidémique, c'est-à-dire qu'on aura une augmentation de la prévalence dans les 10 prochaines années.
On sait à quoi c'est dû cette augmentation du diabète ? C'est quoi ? C'est la sédentarité ? C'est le...
Alors on dit ça. On dit effectivement c'est la sédentarité, l'augmentation d'habitudes alimentaires qui favorisent l'arrivée du diabète. Mais il y a probablement d'autres composantes, notamment génétiques, qui interviennent dans l'explication de cette épidémie.
Et puis les pays peut-être émergents aussi, qui ont changé leurs habitudes alimentaires.
Absolument.
Des gens qui avaient une progression exponentielle de...
Oui, qui avaient à la fois une activité physique plus régulière dans le passé et qui avaient un régime qui était plutôt pauvre en lipides et qui ont eu une alimentation soudainement pléthorique avec tous ces éléments-là qui favorisent l'arrivée du diabète.
Pays émergents qui sont passés au fast-food, entre autres.
Par exemple.
Philippe Emery, donc vous êtes le président de France de Abbott. Abbott, c'est une société américaine ?
Société américaine, présence globale dans 160 pays.
Relativement récente, 135 ans.
Une société effectivement qui a une longue tradition d'innovation et une société leader dans les dispositifs médicaux et dans le diagnostic.
Et vous êtes très présent en France ?
Nous sommes présents en France au niveau des dispositifs médicaux et du diagnostic justement.
Oui. Alors c'est vrai que vous avez plusieurs cordes à votre arc. Vous êtes très présent dans le diagnostic, dans le vasculaire, entre autres les fameux stents, dans la douleur chronique avec la neuromodulation, et surtout donc dans le diabète avec vos dispositifs médicaux innovants de prise en charge et de surveillance du diabète. C'est la Journée mondiale du diabète. Vous êtes impliqué, vous profitez de cet événement pour sensibiliser un peu plus le grand public ou pas ?
Absolument. Je crois qu'il existe. Bien sûr, des facteurs qui sont... Alors déjà, il faut bien différencier le diabète de type 1 et le diabète de type 2. Mais ce qui est sûr et certain, c'est qu'il faut attirer l'attention du grand public sur le diabète, la maladie du diabète. Comme l'expliquait le professeur Jean-Pierre Rivelin, en France, il y a 4 millions de personnes atteintes. Et nous avons un travail considérable d'information, de prévention, pour mieux faire connaître le diabète et ses conséquences, mais aussi ses objectifs thérapeutiques.
Donc c'est important qu'un laboratoire s'implique, un laboratoire de...
C'est très important, très important. Je veux dire, l'innovation pour la prise en charge, améliorer la prise en charge des patients, ça nécessite forcément aussi des actions d'information et d'aligner aussi les différents professionnels de santé ensemble dans la connaissance et...
Et pourtant, ce diabète progresse.
Oui, absolument.
Que fait la police ?
Bah exactement, parce que en fait, les patients diabétiques, c'est des maladies très différentes, des patients très différents, des causes très différentes, mais ils ont plusieurs points communs. Le premier point commun essentiel, c'est que silencieusement, en plusieurs années, se développent des complications de ce diabète qui peut raccourcir la vie des gens, entraîner des risques de complications cardiaques en particulier, et comme vous l'avez dit, ophtalmologiques et rénales, et que toutes ces complications peuvent se prévenir, d'abord si le patient il sait qu'il est diabétique, qu'on en détermine la cause, et comme ça a été dit, il y a plusieurs causes de diabète, la majorité c'est ce qu'on appelle le diabète de type 2, c'est-à-dire le diabète favorisé par la sédentarité et l'alimentation pléthorique, c'est à peu près 90% des diabétiques, et 5% de ces diabétiques, c'est difficile à traiter, c'est des patients qui ont une destruction de leur capacité de fabriquer une hormone qui s'appelle l'insuline. Et ils ont besoin de se traiter par injection d'insuline et souvent ça démarre avant l'âge de 20 ans. Donc ce qui implique les enfants, mais également les parents. Et tous ces malades, toutes ces pathologies, tous ces patients sont contraints de surveiller leur maladie et de suivre leur traitement. Et tout ça est contraignant.
Et de comprendre un petit peu ce qu'ils ont.
Absolument. Donc ils ont besoin d'un suivi régulier et tout ça, on a besoin de l'apport des nouvelles molécules, mais surtout aussi des nouvelles technologies pour aider les patients dans leur prise en charge.
Alors justement, Philippe Amery, donc ces nouvelles technologies, évidemment il y a des médicaments qui améliorent aussi la santé des patients diabétiques, mais il y a aussi des dispositifs médicaux qui vont surveiller de mieux en mieux d'ailleurs le diabète.
Absolument.
Faciliter leur vie.
C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est l'association entre notre savoir-faire des dispositifs médicaux et du diagnostic. Et ça donne lieu, en fait, aux capteurs de lecture en continu du glucose.
Que vont faire ces capteurs, alors, justement?
Le patient atteint de diabète avait l'habitude de se piquer le bout du doigt pour une glycémie capillaire, ce qui est un acte, en fait, douloureux, ce qui, malheureusement, entraîne un arrêt dans la vie quotidienne du patient. Aujourd'hui, les capteurs, le patient porte son capteur. Il a la possibilité d'avoir une lecture en continu sur son téléphone portable.
Donc, il a son capteur en permanence.
C'est aussi simple de consulter son taux de glucose et ses flèches de tendance que regarder un SMS sur son téléphone. Et la possibilité aussi, bien sûr, de partager ses données avec son professionnel de santé pour pouvoir, lors des consultations...
Qui permet aux professionnels de santé de suivre, même entre les consultations, son
patient. Les professionnels de santé peuvent suivre avec la télésurveillance, mais ça permet aux patients aussi de pouvoir avoir des téléconsultations, de pouvoir être en consultation avec son médecin et d'avoir 100% des données visibles. Et c'est un outil d'éducation, c'est un outil d'explication, et ça permet aux patients de mieux comprendre la variabilité de son glucose en fonction des moments de sa vie quotidienne.
Vous le voyez, vous, en pratique courante, c'est une véritable révolution dans la prise en charge du diabétique?
Ces nouveaux outils technologiques ont révolutionné la prise en charge. Il faut savoir qu'un patient diabétique est expert de sa pathologie. C'est vraiment l'exemple de la maladie où l'éducation du patient, le partage de la décision avec lui, est au cœur même de sa prise en charge. Et ces outils technologiques sont là pour justement les aider à avoir davantage d'informations plus facilement accessibles et qu'on peut partager plus facilement avec le personnel soignant de manière à partager avec lui le suivi de son diabète, ce qui permet d'avoir un bon équilibre et de prévenir les fameuses complications.
Et donc toutes ces infos, finalement, qu'on appelle aussi des data, est-ce que grâce à l'intelligence artificielle, ça nous permet d'avancer, de faire des études épidémiologiques, de faire des études cliniques?
Absolument. Ce qui est un paradoxe, c'est que ces nouvelles technologies avec l'intelligence artificielle, comme par exemple les capteurs, mais d'autres outils existent aussi, ça permet d'améliorer la prise en charge technique du patient, mais aussi ça nous laisse plus de temps de s'occuper de lui, de s'occuper de ses aspects psychosociaux qui sont majeurs dans la prise en charge de la maladie, et quelque part, paradoxalement, ils humanisent la prise en charge.
Philippe Emery, ces dispositifs médicaux sont remboursés ou pas par l'assurance maladie?
Oui, bien sûr. Sous certaines conditions et en fonction du parcours patient, mais oui, bien sûr.
Pour vous, donc pour deux conclusions, est-ce que le futur du diabète dans les 20 ans à venir?
Je dirais deux mots clés. Un, arrivée de l'intelligence artificielle pour alléger la contrainte de la maladie et améliorer l'équilibre. Deux, humanisation de la prise en charge avec davantage de temps passé à comprendre son patient, à dialoguer avec lui et à partager les décisions.
Et puis peut-être ne pas isoler le diabète, le comprendre dans une maladie plutôt globale.
Vous avez raison, parce que le diabète, c'est également, en fait, il y a quasiment tous les organes du corps qui sont concernés par cette hyperglycémie, ce trop de sucre dans le sang. Et donc c'est une prise en charge globale, multi-organes et aussi psychologique.
Philippe Emery, l'écologie responsable, donc après une place importante dans nos sociétés, c'est le cas de votre laboratoire?
Absolument, donc... Peut-être pour répondre à Jean-Pierre Rivlin, le développement et le futur, c'est la possibilité pour ces dispositifs de communiquer entre eux. Mm-hmm. C'est la possibilité d'avoir des algorithmes. C'est la possibilité de partager les données et d'avoir la possibilité pour tous les professionnels de santé qui sont autour du patient de partager ces données. Et c'est vrai que l'innovation ultime, c'est la possibilité de pouvoir recycler ces produits après leur usage et d'avoir la capacité d'extraire les métaux précieux et de les redonner, de leur redonner vie dans l'industrie.
Et c'est ce que vous faites chez Abbott.
Absolument, c'est très innovant.
Merci beaucoup Jean-Pierre Rivlin, merci beaucoup Philippe Emery. On va à présent accueillir Jean-Michel Lambert qui est président de Oya Vision Care.
BFM Business, Check-up Santé, au cœur de l'innovation santé.
Jean-Michel Lambert, bonjour.
Bonjour.
C'est la deuxième fois qu'on vous accueille dans le Check-up Santé, on en est ravis. Vous avez un long parcours dans le domaine de la santé, puisque vous êtes passé par Nestlé, vous êtes passé par J&J, Johnson & Johnson, et vous dirigez depuis 5 ans Oya Vision Care France. Oya Vision Care, ça appartient à un gros groupe japonais, c'est ça ?
Oui, c'est un groupe japonais qui est dans le dispositif médical d'une façon générale, et des systèmes complexes d'informatique et de masques électroniques.
Avec des marques peu connues comme Seiko, Pentax.
Absolument.
Et vous êtes installé en France, Oya Vision Care est installé en France depuis de nombreuses années, je crois.
Oui, depuis plus de 20 ans, on est installé du côté de l'Est du Parisien, avec un site de production à Marne-la-Vallée.
Alors, cette fameuse myopie dont on a parlé avec les diabétos, c'est une véritable pandémie.
Oui, c'est ce que... D'ailleurs, c'est le travail qu'on a fait auprès des autres.
On a l'impression que ça suit le diabète.
Oui, comme le diabète. Vous avez raison, il y a sans doute des traînes long terme qu'on aperçoit, ouais. Et la myopie en fait partie. On a d'ailleurs discuté avec l'autre autorité de santé pour savoir comment le gouvernement français souhaitait appréhender cette myopie. Mm-hmm. Ils ont donc déclaré depuis 2022 cet avis que c'est un enjeu de santé publique, puisque 50% de la population mondiale sera myope avant 2050, la France comprise. Et ça nous a donné l'occasion de discuter de notre nouveau verre MyoSmart qui permet de freiner le développement de cette myopie.
On connaît, avant ça, on connaît un petit peu les causes de cette progression de la myopie.
Il y a des...
Déjà de l'arrivée de la myopie, de
sa progression. Oui. Il y a des sujets sur lesquels on travaille depuis longtemps, mais il faut être très humble parce qu'on n'a pas du tout découvert l'intégralité des facteurs de prévalence de la myopie.
J'ai eu la chance... génétique, bien sûr.
Alors, clairement, facteurs génétiques, facteurs et environnementaux, surstimulation de la vision de près. Donc, tous ces éléments-là, on a pu les observer en Asie, où la prévalence est encore plus forte qu'en Europe, mais on n'a pas réussi à découvrir l'intégralité des facteurs explicatifs.
Et cette myopie, donc, elle progresse plus ou moins vite en fonction des gens.
Oui,
elle... Notamment dans l'enfance.
Exactement. Elle s'acquiert, on dit de façon résumée, elle s'acquiert pendant l'enfance. C'est l'objet d'ailleurs des études qu'on a partagées avec l'autre autorité de santé, entre 5 et 17 ans, suivant les études complémentaires, évidemment, on peut trouver des évolutions myopiques aussi autour de l'âge de 20 ans, mais c'est principalement là que la dioptrie va s'acquérir et elle est complètement conditionnée pour 90% à la longueur axiale, la longueur de l'œil en fait.
Et c'est la raison pour laquelle vous avez lancé un verre incroyable, un verre qui freine la progression de la myopie. Est-ce que c'est possible ?
Oui, alors on ne traite pas.
C'est une innovation disruptive, là, complètement
disruptive. Puisqu'en fait, tous les verres sont passifs, les verres ophtalmiques sont passifs. Là, d'un seul coup, on rentre dans un verre traitement. Et il y a 3 ans, on a lancé ce verre-là, un système complètement nouveau qui permet à la fois de donner l'acuité et la correction attendue, mais en même temps de traiter en périphérique le développement axial de l'œil et donc de réguler son évolution.
Et quels sont les résultats ?
Alors c'est assez remarquable puisqu'aujourd'hui on est en étude clinique.
Les résultats bien sûr validés. Hein,
alors c'est extrêmement important de clarifier ce point-là. En effet, tout ce qu'on fait chez Oya, c'est d'abord d'avoir voulu faire des preuves cliniques à ce qu'on avançait. Et on est aujourd'hui, on a la chance de partager plus de 25 publications internationales sur la myopie. On a la dernière qui est en cours d'explication. Nous a fait aussi mesurer les effets rebonds. À 6 ans, est-ce qu'il y avait, quand on arrêtait de porter le verre, un effet rebond à cette myopie ? Non, on est rassuré. Oui. On peut arrêter et on gardera une courbe complètement classique d'un amétrope. Donc les résultats sont bons. En France, on a équipé 100 000 enfants qui sont aujourd'hui équipés du verre MyoSmart. Et d'une façon générale, les professionnels de santé, d'ailleurs au passage je remercie, opticiens ou ophtalmologistes, partagent un résultat qui est de l'ordre de 7 à 8 enfants qui sont stables après un an quand ils portent le verre.
Donc ça fait 60 à 70% quoi.
On espère confirmer ce résultat-là. Aujourd'hui, on a une statistique qui est très claire, c'est que 60% d'effets freinateurs par rapport à un verre qui est juste unifocal classique.
D'accord. Donc c'est vrai, vous les proposez et bien sûr aux lunetiers.
Oui, alors à tous les opticiens, plus de 6000 en France et 4000 ophtalmologistes qui prescrivent.
Ils existent aussi en verre photochromique, en verre de soleil.
Alors ça, c'est l'innovation de cette année. On les a sortis en photochromique, effectivement, et en polarisant, de façon à pouvoir permettre à l'enfant de continuer le port dans les saisons d'été, et puis en journée, quand il y a du soleil à l'extérieur, parce qu'on recommande, je vous rappelle, à tous les enfants de sortir au moins une heure par jour, particulièrement les vieux.
On peut appliquer ce même principe aux lentilles de contact ou pas?
Oui, c'est en développement. Il y a aussi des systèmes, quelques confrères ont sorti d'ailleurs des lentilles de contact avec vocation à freiner le développement de la myopie de la même façon. Il existe une autre spécialité qui s'appelle l'orthoca, de la même façon, qui a un procédé différent, mais qui permet d'obtenir des résultats satisfaisants.
Donc là, ça serait peut-être une commercialisation pour dans quelques années, non?
Non, l'orthoca existe déjà. C'est des lentilles physiques qui sont portées la nuit depuis plusieurs années. Mais les publications médicales concourent à dire qu'il y a un résultat satisfaisant. Et je pense que l'innovation en lentilles souples, elle est vraiment en devenir, même si déjà un des laboratoires a sorti des lentilles de contact frénation.
Alors, ce qu'on aimerait aussi, c'est que ces verres soient mieux pris en charge, c'est ça, par l'assurance maladie?
Alors là, vous touchez un point sensible. Oui. En effet, on a des discussions avec la Caisse, le CEPS, organe économique de l'autorité de santé, parce que dans un verre classique, je ne sais pas si vous le savez, mais la sécurité sociale rembourse 3 centimes. Là, on est sur un verre traitement, il faut qu'on commence à prendre en charge quelque chose qui est plus efficace et qui soit... Surtout qui donne la possibilité aux parents d'éviter le renoncement aux soins, parce qu'il faut qu'on régule quand même l'économie. Vous avez 3 enfants, ils sont 3 myopes,
et évidemment. Donc, vous êtes en discussion avec eux.
Donc on est en discussion. Ça avance doucement, on va le dire, pas assez vite à mon goût, puisqu'on parle de l'autorité de santé qui a donné son avis en 2022, et depuis, il s'est pas transformé une prise en charge. Et ce que je voudrais véritablement, en tant que évidemment industriel, mais en tant que parent et myope et ayant un décollement de rétine, c'est qu'on évite les myopies fortes des enfants et du futur de ces adultes là, et donc qu'on leur donne une chance et donc pas une perte de chance à être éligible à ces verres. Effectivement,
on est content de vous donner une vitrine justement pour,
ben merci
pour cet appel qui mérite d'être fait. Jean-Michel Lombert, président de OIA Vision Care, merci beaucoup. Merci beaucoup. On va à présent accueillir Thierry Ousenstein, qui est le directeur médical de la MACSF. Thierry Ousenstein, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes médecin. Vous avez fait un exécutif MBA en santé à Dauphine. Vous connaissez le monde de la santé depuis de nombreuses années, sans vous vieillir, hein, évidemment. Hein. Et vous êtes le directeur médical de la MACSF depuis plus de 10 ans. La MACSF, c'est la mutuelle d'assurance du corps sanitaire français. La MACSF, c'est la principale mutuelle
Alors nous sommes le premier assureur, effectivement, des professionnels de santé. Nous assurons un peu plus d'un million de professionnels de santé, des libéraux, des hospitaliers, des paramédicaux, des médicaux.
Ouais. Et je me rappelle de vous avoir invité il y a quelques années.
Il y a quelques années.
C'était moins d'un million, si mes souvenirs
sont bons. C'était moins d'un million.
Bravo, donc.
On a une croissance, grosso modo, un peu plus de 3% par an.
Ouais, magnifique. Alors, le célèbre proverbe, errare humanum est, l'erreur est humaine, ça prend une dimension particulière quand il s'agit de santé, quand même.
Alors, une dimension toute particulière, c'est notamment la raison d'être de MACSF, de pouvoir accompagner les professionnels de santé lorsqu'ils sont mis en cause par des patients. Et c'est là où on délivre toute notre compétence, en tout cas on mobilise toute notre énergie pour que nos assurés soient parfaitement accompagnés.
Alors, un médecin ou un professionnel de santé, on va dire un médecin, il peut se tromper ?
L'erreur
dans
arrive.
Certaines conditions.
L'erreur peut arriver, absolument.
Il peut se tromper, mais dans certaines conditions, on est bien d'accord?
Alors, dans certaines conditions, ne pas confondre erreur médicale et accident médical non fautif, par exemple, ou la complication qui peut arriver à n'importe quel professionnel de santé.
Alors, vous disiez que vous étiez évidemment les spécialistes de responsabilité professionnelle. D'ailleurs, vous publiez chaque année un bilan de la responsabilité médicale. C'est quoi la responsabilité médicale exactement?
Alors, comme je vous l'indiquais, c'est vraiment le cœur de métier de notre mutuelle. Nous avons une organisation qui nous permet d'accompagner nos assurés, nos professionnels de santé, dès lors qu'ils sont mis en cause par un patient.
Et ils le sont de plus en plus, mis en cause, on dirait.
Alors, ils le sont avec une petite variation chaque année. Pour 2022, nous avons grosso modo les mêmes chiffres qu'en 2021, sans rentrer dans des détails trop pointus.
Un peu biaisé, puisqu'il y avait le Covid, non?
Alors voilà, on est sur une queue de comète, entre guillemets, si je peux m'exprimer ainsi, avec un trend sur 2020-21, avec une activité qui était au ralenti, et on sait que les mises en cause sont toujours un petit peu décalées.
Ouais. D'ailleurs, ce décalage, on dit souvent qu'on a 15 ans de retard avec les US. concernant la judiciarisation, procédurisation des, en santé.
C'est ce que nous avons constaté également, bien entendu, avec une judiciarisation, vous avez utilisé le terme, qui est calqué sur ce qu'on a pu voir outre-Atlantique, fin des années 90, début des années 2000.
Évidemment, ce ne sont pas les mêmes montants d'indemnisation qu'aux US, qui sont délirants.
Heureusement.
Alors, qui sont les professions les plus impliquées, les plus mises en cause ?
Alors, comme je vous l'indiquais, nous assurons à la fois des libéraux, des hospitaliers et on a le plaisir d'assurer toutes les professions de santé. Chaque année, on retrouve à peu près les mêmes spécialités. En 2022, c'était les chirurgiens digestifs et surtout bariatriques qui sont les plus mis en cause sur des complications liées à la sleeve, par exemple, des choses comme ça. Et ensuite viennent les chirurgiens du rachis et les neurochirurgiens qui perdent une place, entre guillemets, au podium parce que nous avons mis en place beaucoup d'actions de prévention du risque.
Parfois pour un manque d'efficacité, c'est ça, non ?
Non, pas de manque d'efficacité, on est sur une chirurgie très fonctionnelle. J'ai un exemple, je me fais opérer parce que j'ai une hernie discale, j'ai mal au dos avec une sciatique ou une cruralgie. Au décours de l'intervention, j'ai plus de sciatalgie ou de cruralgie, j'ai toujours mal au dos. Et certains patients estiment que ce n'est pas normal. Donc, comme je l'indiquais, nous avons beaucoup travaillé avec les neurochirurgiens, par exemple, ou les chirurgiens du rachis, pour améliorer la question de l'information, du compte-rendu opératoire, et on constate fort heureusement une baisse de sinistralité.
Donc ce sont d'abord en premier lieu les chirurgiens, c'est ça
chirurgien.
Qui est le plus mis en cause.
Oui, tout à fait.
Et après, il y a d'autres quand même spécialités ou
alors, les spécialités qui sont toujours techniques, notamment alors mes confrères ORL se considèrent comme chirurgiens, ils ont bien raison, mais on voit de la gastro, on voit un petit peu de cardiologie également.
Un peu de cardiologie, d'accord, tant mieux, ça me rassure.
Oui. Ouais. Et puis ce que l'on voit monter, ce sont les médecins urgentistes, qui sont sans surprise amenés à prendre en charge de plus en plus de patients dans des conditions parfois dégradées, et puis les médecins généralistes également, qui ne sont plus à l'abri de réclamations.
En fait, ces mises en cause, en fait, est-ce qu'elles sont dues, entre autres, par exemple, à l'apparition d'Internet, les réseaux sociaux ? Est-ce que les patients sont plus informés ? Donc, peut-être qu'ils savent un peu plus, ils connaissent un peu plus leurs droits ?
Je pense. Très, très, très clairement, il y a eu une diffusion de l'information, mais ça date un petit peu des années, début des années 2000, avec des patients de plus en plus curieux, qui cherchent des renseignements. Mais on constate également, quand on parle de judiciarisation, qu'il y a un contexte économique qui pousse aussi fortement à des mises en cause.
Ah, on parle beaucoup de l'intelligence artificielle, hein, notamment dans le diagnostic. Et là, il commence à y avoir quelques soucis sur le plan éthique, sur le plan juridique, avec l'intelligence artificielle, notamment dans le diagnostic.
Alors, nous accompagnons beaucoup les professionnels de santé avec des solutions innovantes, notamment poussées par des start-up en santé. On peut citer par exemple Synapse Medicine ou Glimmer ou d'autres qui ont vocation à sécuriser les pratiques, très clairement. Pour l'instant, nous n'avons pas constaté de mise en cause ou d'utilisation de ces solutions, mais nous restons bien évidemment très vigilants.
Ouais. Et celle de la loi RIST qui a été adoptée en mai dernier, est-ce qu'elle a fait évoluer quand même le champ de compétences de certaines professions de santé ?
Alors oui, très clairement oui. Si on prend par exemple l'exemple plus typique de la loi RIST concerne les infirmières de pratique avancée, IPA, qui ont vu leur périmètre extrêmement élargi, avec un accès direct dans certaines conditions, avec des prescriptions complètement autonomes, et puis des actes.
C'est encore trop récent pour avoir.
C'est encore très récent,
pour avoir des mises en cause.
Oui, mais chez MSSF, nous avons accompagné les IPA depuis maintenant 4 ans. Nous sommes présents, par exemple, lors de leur congrès habituel en avril, le fameux COFPA, et nous serons présents également en avril 24. Et nous avons pris la décision de garantir, bien évidemment, l'activité des IPA, les accompagner sans majoration de tarif, parce que c'est notre rôle d'assureur d'être à leur côté.
D'ailleurs, vous êtes très présent, vous collaborez beaucoup avec les sociétés savantes, avec les syndicats.
Alors, on collabore beaucoup, c'est ce qu'on appelle les relations institutionnelles chez MACSF, que j'ai le plaisir de piloter également. Et on a effectivement des relations très proches avec des sociétés savantes, notamment chez les jeunes générations, qui sont très demandeuses, entre guillemets, de précisions sur le risque médico-légal, parce que... en faculté de médecine, c'est pas vraiment assez.
Bien sûr. Alors justement, est-ce que, pour finir, est-ce que ça fait partie un petit peu de vos services, de former les professionnels de santé?
Alors oui,
absolument. Ça semble important quand même.
C'est très très important et c'est là aussi l'ADN de notre mutuelle puisque nous accompagnons, nous formons. Nous sommes très présents lors des congrès de spécialité, nous sommes très présents dans les écoles d'infirmières, par exemple, les fameuses IFSI, les écoles de kinésithérapie et dans toutes les facultés de médecine pour délivrer des informations médico-légales ou sur les bonnes pratiques, sur l'information sur le risque médico-légal au sens large.
Merci beaucoup Thierry Ouzassian, merci beaucoup directeur médical de la MACSF.
Merci à vous.
C'est la fin de cette émission, on se retrouve avec plaisir, j'espère, la semaine prochaine.
BFM Business, check-up santé, au cœur de l'innovation santé.